Bien, mes frères et mes sœurs, je voudrais tout d'abord remercier l'Association pour l'Unité, la paroisse de Saint-Sulpice, de bien vouloir me permettre de vous expliquer à la fois mon parcours très succinctement au sein de la franc-maçonnerie, les raisons pour lesquelles j'en suis sorti, et en même temps l'histoire de mon retour à la foi. Eh bien, je m'appelle Serge Abad Gaillardot, j'ai 63 ans. Je suis issu d'une famille d'origine espagnole. Je suis architecte et j'ai été haut fonctionnaire territorial. Je suis né dans une famille catholique, mais pas pratiquante. J'allais rarement à l'église. J'ai ainsi progressivement perdu la foi. C'est dans ces circonstances que je suis devenu franc-maçon, à l'âge de 35 ans. Puis j'ai quitté la franc-maçonnerie 24 ans plus tard. J'ai occupé la plupart des postes, notamment celui de vénérable maître, et j'ai été coopté dans les hauts grades. Lorsque j'ai quitté la franc-maçonnerie, j'étais au milieu de mon chemin des hauts grades, mais j'en avais suffisamment compris, avec la grâce de Dieu, pour comprendre les dangers de cette institution. Depuis, je témoigne donc et j'écris sur mon expérience au sein de la franc-maçonnerie, sur ma foi renouvelée. Je suis l'auteur de quelques ouvrages. J'ai frappé à la porte du temple aux éditions Teki. Je servais Lucifer sans le savoir, toujours aux éditions Teki. Et un petit opuscule qui s'appelle La franc-maçonnerie démasquée aux éditions La Bonne Nouvelle. Depuis 2014, je donne des conférences gratuites partout en France, mais également à l'étranger, en Pologne, en Italie, en Espagne, au Chili, prochainement en Afrique. Tout ce que j'écris et tout ce dont je témoigne, je le confirme essentiellement par des écrits et des citations de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire que je n'invente rien. Mon livre sur Lucifer et sur l'aspect luciférien de la franc-maçonnerie contient environ 200 citations d'écrits maçonniques. La franc-maçonnerie telle que nous la connaissons aujourd'hui est née en 1717 à Londres. Mais le secret des origines de la franc-maçonnerie est enfoui non seulement sous le silence, mais également sous l'énonciation régulière d'un amalgame de vérité et de contre-vérité. C'est le meilleur moyen d'occulter la réalité. Je cite Roger Daché, qui est historien de la franc-maçonnerie et président de l'Institut maçonnique de France. Savoir si nous découvrirons un jour les vraies origines de la maçonnerie est une question sans réponse. Fin de citation. La franc-maçonnerie se définit elle-même, et c'est très séduisant, comme une institution philanthropique et philosophique ayant pour objectif le développement moral et le bonheur de ses adeptes, mais surtout le bonheur de l'humanité. Je cite « La franc-maçonnerie a pour but le perfectionnement moral de l'humanité ». Fin de citation. Qui pourrait refuser un tel idéal ? Cependant, on peut s'interroger par exemple sur cette notion de perfectionnement moral lorsqu'on sait que l'obédience de la Grande Loge de France fut avec de nombreuses autres, comme la Grande Loge féminine de France, le Grand Orient de France ou le droit humain auquel j'ai appartenu, pour ne citer qu'elle, à l'initiative des lois sur l'avortement, et que ces obédiences tentent aujourd'hui d'imposer la légalisation de l'euthanasie depuis 1976. Elles se sont exprimées également en faveur de l'euthanasie en 2015. Et dernièrement, c'est encore le cas. Quant aux autres obédiences, comme la Grande Loge nationale française, la Grande Loge traditionnelle symbolique opéra ou le Grand Prieuré des Gaules, elles ne s'expriment pas. Qui ne dit mot consent. Nous n'avons donc pas, nous chrétiens, la même conception de la morale que la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est avant tout un moyen idéologique sur fond d'enseignement ésotérique, fondé essentiellement sur des croyances du gnosticisme. Je cite un spécialiste qui fut franc-maçon, revenu à la foi également, Karl van der Ecken, qui a été également vénérable maître. Je cite « Les origines de la franc-maçonnerie sont multiples. Rose-croix, hermétisme, Graal, chevalerie, cabale. toutes ces organisations ou courants de pensée avaient un dénominateur commun, la gnose et le gnosticisme. Les gnostiques sont des mystificateurs qui attribuent des qualités aux choses qu'elles n'ont pas. Voici comment, par contre, la franc-maçonnerie se définit en secret. Je cite « La franc-maçonnerie est la contre-église, le contre-catholicisme, l'église de l'hérésie. » Elle ajoute « Je cite, le catholicisme, nous, francs-maçons, devons poursuivre sa démolition définitive. Je n'invente rien, ça ressort des travaux de convent maçonnique. » La question qui se pose et qu'on me pose souvent, c'est de savoir si on peut être franc-maçon et catholique. La réponse est sans ambiguïté, ça n'est pas possible. Le Vatican a déclaré maintes fois cette incompatibilité. La première fois par une bulle du pape Clément XII en 1738, je cite « Nous avons conclu et décrété de condamner et d'interdire ces dites sociétés, appelées du nom de francs-maçons. C'est pourquoi nous défendons à chacun des fidèles de Jésus-Christ, laïcs ou clercs, séguliers ou réguliers, d'entrer dans ces dites sociétés de francs-maçons, et cela sous peine d'excommunication. » Ces encycliques se sont succédées pendant 300 ans, ce qui n'empêche pas aujourd'hui encore la franc-maçonnerie de proférer le mensonge qu'on peut être catholique et franc-maçon. Le mensonge ou l'erreur. Je parle de mensonge lorsqu'il s'agit de dignitaires, parce qu'ils savent très bien ce qu'il en est. L'erreur pour des francs-maçons qui n'ont pas encore discerné ou qui ont mal lu ces encycliques, voire qu'ils ne les connaissent absolument pas. La dernière proclamation officielle date de 1983. Après une étude très approfondie des différentes obédiences et différents rituels maçonniques, celui qui était à l'époque le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, immense théologien, préfet de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi à l'époque, a apporté ses conclusions dans un décret du 26 novembre 1983, dont la publication a été ordonnée par le Saint-Pape Jean-Paul II. Je cite « On a demandé si le jugement de l'Église sur les associations maçonniques était changé, étant donné que dans le nouveau code de droit canonique, il n'en est pas fait mention expresse, comme dans le code antérieur. Le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques demeure donc inchangé, parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église et l'inscription à ces associations reste interdite par l'Église. Vient maintenant ce qui est le plus important, et que la maçonnerie ne dit jamais. J'ai posé moi-même la question et on m'a induit en erreur à l'époque. Je parle des francs-maçons qui m'ont répondu. Je cite le cardinal Ratzinger. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques, quelles que soient les obédiences, quels que soient les rites utilisés, sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Je passe sur la citation, mais il n'est pas permis aux autorités ecclésiales locales de déroger à ce décret. Un an plus tard, en 1984, le Vatican publiait également une réflexion sous le titre « Impossibilité de conciliation entre la foi chrétienne et la maçonnerie ». Je cite les deux extraits les plus pertinents, me semble-t-il. « Pour un chrétien catholique, il ne lui est pas possible de vivre sa relation avec Dieu de deux façons, c'est-à-dire en scindant sous une forme humanitaire, supraconfessionnelle, et sous une forme interne chrétienne. Il ne peut entretenir de relations de deux sortes avec Dieu, ni exprimer son rapport avec le Créateur par des formes symboliques de deux natures. » Oui. Pour illustrer ce propos, en tant que chrétien et en particulier catholique, nous ne pouvons adorer Dieu et en même temps adorer le grand architecte de l'univers. Nous verrons qu'il s'agit de deux choses différentes, en particulier d'un Dieu qui est le nôtre, et j'emploierai le terme de choses pour le grand architecte de l'univers, parce que c'est une invention pure et simple. Il ne s'est pas révélé, vous le verrez. Deuxième citation du Vatican, qui est très simple à comprendre. D'autre part, un chrétien catholique ne peut pas simultanément participer à la pleine communion de la fraternité chrétienne et considérer son frère chrétien par ailleurs, selon l'optique maçonnique, comme un profane. Tout à l'heure, j'ai entendu avec justesse que nous sommes tous frères. Il n'y a pas de profane ici. Nous sommes frères en Christ. Il n'y a pas d'initiés et de gens à l'extérieur de l'Église. Nous sommes tous l'Église, toutes et tous. Selon un spécialiste de la franc-maçonnerie, la doctrine maçonnique conduit au renoncement de la foi, c'est-à-dire à l'apostasie. Je cite, « La maçonnerie est une des nombreuses religions apostatiques, c'est-à-dire qu'elles apostasient de l'authentique religion et se consacrent à la destruction du judaïsme et du christianisme. » Je reviens sur ce que je vous annonçais tout à l'heure. Le Dieu de la franc-maçonnerie, et je l'écris avec un D minuscule, n'est pas le Dieu, avec un D majuscule, des catholiques. Le grand maître de la grande loge nationale française, vous verrez, je n'invente rien. Qui est l'obédience la plus déiste, qui se considère d'ailleurs comme la seule régulière et que la maçonnerie anglo-saxonne d'origine reconnaît comme seule régulière. Ce grand maître déclare, je cite, « Entre les éléments de notre règle, la croyance non dogmatique en Dieu, grand architecte de l'univers. La condition pour rentrer à la Grande Loge nationale française est bien de croire en Dieu, mais il ne s'agit pas du même Dieu. On nous le dit, la croyance non dogmatique. Je ne peux pas personnellement, et je pense que vous partagerez cet avis, croire en un Dieu qui ne soit pas Père, Fils et Esprit Saint. Et là est le dogme de l'Église. À partir de l'instant où je crois en un grand architecte de l'univers, eh bien, ce grand architecte de l'univers, premièrement, il ne s'est pas révélé. Deuxièmement, il s'agit d'un concept purement humain et maçonnique. Et il n'est surtout pas la Trinité. Il est une puissance, un naturalisme, une force, qui ne sont pas définies. C'est un Dieu polymorphe. C'est une vague idée, un vague concept. Le point suivant que je voudrais aborder et que je précise dans mon dernier livre, « Je servais Lucifer sans le savoir », c'est que la franc-maçonnerie a un fondement luciférien dont la plupart des francs-maçons ne sont pas conscients. Et je voudrais vous engager à discerner ce qu'est la franc-maçonnerie, mais surtout à ne pas rejeter les francs-maçons qui sont également nos frères. Aux francs-maçons, il faut parler. Il faut parler surtout de l'amour du Christ. Parce que ça, ils ne l'entendent pas dans leur loge, et je peux en témoigner. Je vous cite une citation tirée d'un écrit maçonnique. Il y a d'ailleurs quelque chose de divin dans le diable et quelque chose de diabolique dans Dieu. Je l'ai écrit avec un D minuscule, bien entendu. Mais cet écrit reprend Dieu et Lucifer. Lucifer étant écrit en toutes lettres majuscules et Dieu en lettres minuscules. Lumière et obscurité sont les deux facettes de cette réalité suprême qui n'est qu'un. Nous sommes en plein dualisme gnostique. Je continue la citation. Lucifer est la réflexion de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, l'ombre de notre être divin en nous-mêmes. Et vous allez voir maintenant, en poursuivant la citation, tout ce que la maçonnerie utilise comme influence dans notre société. L'influx luciférien est une force sans laquelle la Terre n'aurait pu poursuivre son évolution. Lucifer et Christ sont donc complémentaires. Vous voyez, on est encore en plein dualisme. Moi, ma foi, c'est de croire que le Seigneur, sur la croix, a définitivement vaincu le mal. Non seulement c'est ma foi, mais j'en suis persuadé. Je pourrais mourir pour ça. Les francs-maçons considèrent que le mal et le bien sont une seule et même chose, et en plus, d'égale force. Je continue la citation. Albert Pike, maçon du XIXe siècle, avait dit à ce propos, « Pour les francs-maçons gnostiques, le grand architecte de l'univers, c'est Lucifer. » Eh bien, je vais vous maintenant vous donner une citation de Albert Pike, qui a été un des plus grands francs-maçons, une référence, un peu comme pour nous, Saint Paul, Saint Irénée. Je cite, « La religion maçonnique doit être, par nous tous, initiée des hauts grades, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne, car le dieu Lucifer de la théurgie moderne n'est pas le démon Satan de la vieille Goétie. » Tout ça, c'est comme, pour utiliser une expression triviale, de l'enfumage. Je continue la citation. « La magie noire a été enfantée par Adonai. Nous savons qui est Adonai, c'est notre Dieu. » calomniateur de Lucifer. Si Lucifer n'était point Dieu, Adonaï et ses prêtres le calomnieraient-ils ? Oui, Lucifer est Dieu, et malheureusement Adonaï l'est aussi. La réalité scientifique du dualisme divin est démontrée par les phénomènes de polarité et les lois universelles. Et la vraie et pure religion philosophique, c'est la croyance en Lucifer, égal d'Adonaï, mais Lucifer, Dieu de la lumière et Dieu du bien, luttant pour l'humanité contre Adonaï, Dieu des ténèbres et Dieu du mal. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'aspect luciférien de la franc-maçonnerie. Et là, vous n'avez que deux citations sur les 200 que j'utilise dans mon livre pour démontrer ce point. Pour la franc-maçonnerie, Lucifer est donc un bienfaiteur de l'humanité, un rédempteur même. Je cite, « L'alchimie assimile Lucifer au diable. » L'alchimie est une doctrine utilisée par la franc-maçonnerie, est une porte que la franc-maçonnerie ouvre à ses adeptes. Je reprends la citation. « L'alchimie assimile Lucifer au diable, non sous la forme populaire et maléfique, mais au contraire, sous sa forme rédemptrice. Le diable, autrement dit, est un ami de l'homme. » Pour la franc-maçonnerie. Ne vous étonnez donc pas si toutes les lois dites de société qui ont été votées depuis la fin du XIXe siècle, au milieu et à la fin du XXe et au début du XXIe, sont des lois qui sont en opposition totale avec l'enseignement de l'Église et avec la morale divine. La franc-maçonnerie est une porte ouverte sur l'occultisme, sur les pratiques magiques également. Or, la Sainte Écriture, les Saintes Écritures, l'Église également dans son catéchisme. Saint Paul le dit, lui aussi, avec Simon le magicien. Les pratiques occultes, la magie, sont essentiellement liées à des actes sataniques. Il n'y a pas de magie blanche ni de magie noire, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise magie. Il y a la magie, d'une part, et l'amour du Christ, de l'autre. En fait, c'est que la franc-maçonnerie, comme instrument de Lucifer, est essentiellement transgressive. Je cite également un écrit maçonnique. « Le serpent séducteur qui incite à mordre aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise un instinct particulier. Cet aiguillon secret est le promoteur de tous les progrès. » De toutes les conquêtes qui étendent la sphère d'action des individus, cela explique pourquoi le serpent, inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte, fut maudit par les anciens théocrates alors qu'il était en honneur parmi les initiés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la franc-maçonnerie considère que l'enseignement de la Genèse tel que l'Église nous l'apporte, tel que Dieu nous l'a révélé, est selon la franc-maçonnerie une erreur. Le serpent, en provoquant Ève et Adam à manger le fruit de la connaissance, a fait une bonne action, somme toute, pour lutter contre Dieu qui était finalement un obscurantiste. C'est ça ce que dit la franc-maçonnerie. Il faut prévenir les francs-maçons de tout ça, il faut le leur dire. La plupart du temps, ces gens-là sont dans l'erreur et ils ne le savent même pas. Moi-même, j'ai passé 24 ans dans cette erreur. Et il m'a fallu la grâce du Seigneur pour pouvoir discerner et quitter la franc-maçonnerie. Je vous parlerai en quelques mots de ma conversion. Elle a pris du temps, parce que la toute-puissance de Dieu se dévoile avant tout dans notre propre liberté. Et ma liberté, je l'utilisais, je dirais, à l'ombre de mon cœur endurci par la doctrine maçonnique. J'ai recommencé à croire en Dieu en février 2002. J'étais encore franc-maçon, mais j'étais encore sous l'emprise du mal. Et je cherchais de l'aide. Un soir, je fis 200 kilomètres pour rencontrer un prêtre franciscain que l'on m'avait indiqué à Aix-en-Provence. J'eus une longue conversation avec ce prêtre. En le quittant, je vis le Christ dans l'église, en croix. Je ne peux l'expliquer, mais à cet instant, je sentis que l'amour de Dieu était infini, qu'il m'aimait, qu'il nous aimait tous. Ce fut pour moi une certitude, une expérience. Ça me changeait d'un dieu conceptuel maçonnique, un dieu philosophique. Le lendemain du retour chez moi, je me précipitais dans une église, car j'avais soif de prier et de communier, comme si je sortais d'un désert. Mais j'avais oublié toutes mes prières. Je n'étais plus confessé non plus depuis 38 ans. Le prêtre que je rencontrais m'expliqua que les prières que Dieu préfère, ce sont celles qu'on dit avec notre cœur. Et je priais donc ainsi. Un an plus tard, je m'étais installé à Narbonne. Mon bureau était tout proche de la cathédrale. Je m'accordais une pause dans la journée parce que je travaillais beaucoup et j'allais prier devant le Christ avec mes mots. Un jour que je connaissais de gros problèmes, je lui dis en pensée « Pourquoi t'éloignes-tu de moi à peine t'ai-je enfin retrouvé ?» Et là, j'ai eu la surprise de ma vie. J'entendis le Christ me répondre. J'ai du mal à parler de tout ça. J'ai mis du temps à en parler comme je vous en parle ce soir, parce que c'est trop grand, trop fort pour moi. L'émotion est trop grande, mais c'est une réalité. Et ce que j'ai entendu, le voici. Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de moi. J'ai su bien plus tard ce que j'ignorais alors. Ces paroles sont justes d'un point de vue de la théologie. Dieu, dans son amour infini, cherche l'homme en premier. Et cela, je l'ignorais complètement à l'époque. Ce que je venais d'entendre m'avait complètement abasourdi. Mais j'hésitais encore et je continuais à fréquenter les loges. Vous savez, la franc-maçonnerie est séductrice au sens luciférien. Elle vous attire, elle vous garde. Et on a du mal à sortir. Même si, en théorie, c'est simple. J'ignorais à l'époque l'incompatibilité entre le chemin des loges et celui du Christ. Un après-midi, revenant d'une réunion pour regagner mon bureau, je me retrouvais dans un embouteillage. Afin de passer le temps, je mis la radio sur une recherche automatique. À l'époque, j'ai pensé que c'était le hasard, aujourd'hui je sais que c'est le doigt de Dieu. Ce fut RCF Pays d'Aude, radio catholique. Jusqu'à ce jour-là, j'ignorais même qu'il existait des radios catholiques. C'était le milieu de l'après-midi, était diffusée la prière du rosaire à Lourdes, en direct. Je ne connaissais pas cette prière. Et ce fut comme si je n'avais jamais entendu de musique de ma vie, et que tout à coup, on me faisait écouter les Requiem de Mozart ou la 7e symphonie de Beethoven. Quelque chose de merveilleux. Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi magnifique que la prière du rosaire. C'était la première fois. J'avais un rosaire également qu'une dame m'avait offert lorsque je faisais ma première communion. J'ignorais complètement à quoi servait un rosaire. Il était dans un tiroir chez moi. Et j'ai donc décidé d'apprendre cette prière. Me voici quelques mois plus tard à Lourdes devant la grotte, au milieu de la foule. Je prends mon chapelet, je prie la Vierge. Je me souviens qu'il s'agissait des mystères douloureux. À la fin, je décide de rentrer. Mais je n'ai pu esquisser le moindre geste. Mes jambes se sont dérobées sous moi, comme paralysées. Je tombe lourdement au sol. Je ne peux plus me relever. Et je vois la statue de la Vierge Marie comme remplie de lumière. Je n'ai pas vu la Vierge Marie, je n'ai pas eu une apparition. Mais la statue était comme éclairée de l'intérieur. Alors même que c'était une après-midi ensoleillée, de février 2011. Et j'étais dans une espèce de béatitude, mêlée de crainte, un sentiment que je n'avais jamais connu. C'est difficile à expliquer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais à la fois là et ailleurs. C'était à la fois une grande inquiétude, mais en même temps un grand bonheur. J'étais bouleversé. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Mais ma foi en est sortie bien plus forte. Quelque temps plus tard, j'ai décidé d'aller faire une retraite dans une abbaye que l'on m'avait indiquée parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais besoin de réponses. Il s'agit de l'abbaye de la Grâce dans l'Aude. Et lorsque je suis entré dans la cellule que l'on m'avait attribuée, je suis tombé à genoux, en larmes, devant le crucifix qui était sur le mur. Et là, j'ai ressenti tout l'amour du Christ en même temps que je savais qu'il pleurait avec moi. Mon cœur a littéralement explosé et s'est rempli de cet amour. J'ai quitté la franc-maçonnerie et je suis revenu à l'Église. Mais pour cela, il m'a fallu répondre oui au Seigneur. Il m'a fallu passer par deux prières de délivrance et par un exorcisme. Finalement, j'ai consacré ma vie au printemps 2016 à la Vierge Marie. Nous devons, et j'insiste là-dessus, parler aux francs-maçons. Il faut faire la différence entre les dignitaires qui les induisent en erreur et les victimes que sont la plupart des francs-maçons. Le bon Dieu nous a créés libres. Ces gens-là ont la liberté de choisir l'Église ou la franc-maçonnerie. En revanche, il doit choisir librement et en toute connaissance de cause. Et c'est notre exemple que nous devons leur donner. Pas cette fraternité complètement artificielle qu'on retrouve dans les loges, qui est très chaleureuse, il est vrai. Mais la vraie fraternité, c'est d'avoir un seul père. Que je sache, Hiram, le héros de la franc-maçonnerie, n'est pas le fils de Dieu. Alors bien entendu, ils ont trouvé un autre prétexte pour se dire frère, mais ça c'est une autre histoire que je n'aurai pas le temps de vous raconter. Que Dieu vous bénisse tous et toutes, et que Marie vous protège. Amen.